Merci à Bernard Pecker de nous avoir rejoints. Monsieur Pecker, vous êtes économiste, professeur émérite de l'Université de Grenoble-Alpes. Et vous êtes un spécialiste reconnu du développement économique local et territorial. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Josiane Stössel, vous êtes professeur émérite de sociologie à l'Université de Haute-Alsace. Et Francis Kern, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg. Josiane et Francis, vous êtes tous deux membres du comité de pilotage de la chaire ESS de l'Université de Haute-Alsace.
Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, comme il est bien normal, je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Mais ce n'est pas simplement une formule de politesse. C'est aussi un mode de fonctionnement, enfin, en ce qui me concerne. C'est-à-dire que j'entends bien que cette journée, vous m'apporterez autant, au moins, que ce que je vais essayer de vous apporter. C'est-à-dire que c'est un échange mutuel. Et que moi, je fais l'éponge de tout ce que vous allez dire. Et c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut essayer de progresser dans cette longue saga du développement territorial. Deuxième point introductif, j'ai eu quelques expériences en dehors de l'université, puisque j'étais assistant parlementaire entre 1981 et 83, et ensuite élu plus tard, dans une autre vie, élu à la mairie de Grenoble. Alors, c'est pas simplement pour vous montrer tout ce que j'ai fait dans ma vie, mais c'est plutôt que 81 et 83, c'est pas n'importe quelle date, c'est la date de la décentralisation. Et dans le même temps, en 82, c'est le démarrage de l'économie de rigueur. Pierre Mauroy, Premier ministre à l'époque. Et donc, c'est la crise économique qui se caractérise par une première vague de désindustrialisation dans le milieu rural en particulier. Alors, c'est, pour un chercheur, c'est formidable parce que changement institutionnel... plus crise, on se régale, quoi. Les citoyens se régalent moins. Mais c'est une période privilégiée pour observer des changements. Donc, je partirai un peu de là, en ayant un bref historique pour vous montrer que les choses ont considérablement évolué depuis ces 40 et quelques années. La décentralisation, ça a été un moment fort. Dans une période qui, en même temps, correspondait à des difficultés particulières du monde rural, c'est-à-dire que toute la période d'après-guerre, de modernisation de l'agriculture française, ça a été une période extraordinaire de progression de l'agriculture. Et on disait, quand j'étais jeune, que l'agriculture, c'était le pétrole vert de la France, quoi, c'est-à-dire un moteur de la croissance économique. Et puis, ça s'est un peu délité. Aujourd'hui, il y a une vraie crise du monde rural. Donc, c'est intéressant de regarder ce que la décentralisation a pu faire, mais surtout, elle a permis de donner du pouvoir aux collectivités territoriales. Alors, le pouvoir aux collectivités territoriales, c'est à la fois très bien et problématique. C'est très bien dans la mesure où on peut faire jouer la démocratie locale au lieu d'avoir une perspective purement aménagiste ou de la DATAR, qui était l'organisme pilote de l'époque de l'aménagement du territoire, piloté justement... verticalement une organisation du territoire, les collectivités ont commencé à pouvoir prendre la parole. Le problème, c'est qu'elles se sont crues engagées entièrement, mais de façon exclusive, dans le développement territorial. C'est-à-dire que vous aviez des maires, une réflexion très courante que j'ai entendue à cette époque-là, c'était moi, je veux bien faire du développement local, mais c'est moi qui fais. C'est-à-dire, c'est moi maire de la commune. Ça a donné un certain nombre de malentendus et dans, qu'on va retrouver aujourd'hui dans un rapport pas toujours facile entre les citoyens organisés en association, par exemple, et les collectivités territoriales. Où là, on va retrouver des tensions assez fortes. Ça, c'est un peu le démarrage sur un premier malentendu qui va mettre du temps à se résoudre, à s'assimiler. Dans un premier temps, les collectivités, elles ont aidé les entreprises directement, ce qui a été une catastrophe. C'est-à-dire que les entreprises aidées directement par les collectivités, c'est des collectivités qui, sur les finances publiques, eh bien, garantissaient des intérêts d'emprunt, par exemple. Et il y en a plein qui, lorsque l'entreprise eh bien, fermait ses portes, finalement, ça faisait un endettement qui a cru dans des proportions énormes. Donc il y a eu des lois pour freiner et limiter l'engagement financier des collectivités territoriales dans l'aide aux entreprises. C'est ce qu'on a appelé la loi Galland, 1986. Déjà au bout de 4 ans. Et puis alors, ensuite, il y a eu des points d'apogée et des points d'hypogée, si je puis dire, c'est-à-dire des moments où le développement territorial était en pointe, et puis développement où le développement territorial était un petit peu délaissé et que moi on m'a dit souvent aussi écoute, tes histoires de développement local c'est super sympa mais dans un monde de la mondialisation ça fait un peu drôle quoi. Tu nous parles d'anecdotes locales voilà comment est-ce que ça a été traité à un moment donné. Alors en gros on peut retenir 1999 avec une série de lois importantes. Il y a deux lois auxquelles je pense. La loi Chevènement sur l'intercommunalité. Donc on a fabriqué un quatrième niveau de décentralisation à ce moment-là parce que les communes étaient trop petites, trop émiettées. Finalement, d'ailleurs, les communes vont se voir retirer la compétence économique en 2015 avec la loi NOTRe. Et puis, l'autre loi, c'est la loi Voynet, du nom de la ministre de l'Environnement de l'époque, qui est une loi très intéressante sur les pays et les conseils de développement. C'est-à-dire que là, on a créé quelque chose qui était, avec des voix consultatives, des collectifs de citoyens qui pouvaient se réunir et donner leur avis. Je crois que ça a été peut-être l'apogée, parce qu'ensuite, il y a eu une bagarre, je vous épargnerai les détails, entre élus et présidents de conseils de développement, parce que c'était des heurts de personnalité, des méfiances un peu. Je pense que finalement, les maires ont eu la peau des pays. Ils ont presque fini de liquider les pays. Je dis ça un peu brutalement, mais c'est parce que c'est tout à fait l'impression que j'ai eue. Alors je ne parle pas du maire de cette commune, hein, mais en globalité, oui, ça a été le résultat. Et puis, un peu plus tardivement, 2015, la loi NOTRe, c'est un enterrement de première classe avec une reterritorialisation régionale. On fait moins de régions qui ont plus de pouvoir. On enlève des compétences, notamment aux communes, qui d'ailleurs, curieusement, ont été soulagées. Parce qu'une petite commune avait reçu l'injonction de faire du développement, de créer des emplois. Donc, ils ont essayé de surtout d'abord créer des emplois et ensuite de réfléchir au développement. Ce qui est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que c'est le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire commencer à réfléchir au développement et alors la création d'emplois va venir. C'est ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs. Donc, il y avait aussi une difficulté pour des collectivités qui n'avaient pas les moyens ni les compétences pour faire du développement économique et qui finalement étaient un petit peu sommées de le faire. Donc, d'une certaine manière, ça a clarifié un peu les choses en renvoyant sur les intercos et sur les régions la responsabilité du développement économique. Et puis alors ensuite sont arrivées des crises importantes. Donc, j'en reparlerai après, qui vont justifier qu'il y ait une parole citoyenne qui se développe. Et c'est ça là où ça devient intéressant, parce que le sel de la coopération, c'est bien l'idée d'être ensemble citoyens. Y compris pour prendre en charge des problèmes économiques. Alors, je dirais que dès lors que les acteurs se rencontrent pour identifier leurs problèmes et tenter de les résoudre, on a du développement territorial. C'est un peu un résumé de ce que la présentation nous a montré tout à l'heure. C'est dès lors qu'on se met ensemble, qu'on réfléchit à résoudre nos problèmes par nous-mêmes, même si on y arrive partiellement, eh ben on fait du développement territorial. Et pourquoi territorial ? Parce qu'on s'appuie sur un territoire. Donc il y a de la géographie là-dedans. Et ça, c'est le point suivant, qui est que tout ça fonctionne parce que on n'est pas dans le monde des économistes, qui est un monde complètement standard, où tout se déroule de la même manière, où que vous soyez, parce que les comportements économiques sont indépendants du lieu où ça se passe. Donc la géographie intervient, pardon, marginalement dans le développement économique. Et ce qui va être intéressant, c'est que dans le monde du développement territorial, les régions se ressemblent beaucoup, ont souvent des mêmes problèmes. La région rurale de montagne, par exemple, à travers la France, elles sont très proches, mais pas tout à fait identiques. Il y a donc une petite marge de spécificité. C'est là-dedans que va se trouver le potentiel du développement territorial. Comme je disais à mon voisin ce matin, il y a un vieux proverbe chinois que j'ai inventé, bon, ouais, c'est bien, c'est un peu de création, qui dit il ne faut pas faire ce que... il faut faire, je veux dire, ce que mon voisin ne sait pas faire, plutôt que de faire comme lui en moins cher. Si vous faites comme lui en moins cher, vous êtes dans la compétition, et la compétition qui va abaisser tout le monde. Tandis que si vous faites ce que le voisin ne sait pas faire, vous avez trouvé un truc à vous que les autres n'ont pas. Et tout le problème va résider dans la découverte, la révélation, c'est-à-dire au sens photographique et pas au sens évangélique du terme, mais c'est-à-dire vous avez une photo, vous mettez dans les produits, là, et puis tout d'un coup l'image apparaît. Donc il faut faire apparaître la ressource, il faut la révéler. Et c'est tout un processus qui, évidemment, n'existe pas dans le développement économique habituel. Je vais vous dire comment ça se passe, toujours en caricaturant un petit peu. Une liste municipale vient d'être élue. C'est dans les premiers mois qu'il faut faire un projet de développement économique. Donc, on demande à un consultant de nous pondre un projet. Alors, ils en ont des tout prêts. Si bien que ça va vite, mais ce n'est pas adapté au territoire, évidemment. Et balance le projet. Il y a eu un moment donné où il y avait vraiment des gens qui avaient dans leur sacoche des programmes tout prêts de développement économique local. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu diversifié. Alors que dans le projet de développement territorial, il y a tout un aspect de développement qui est long. Lorsque des souvenirs de coopératives, qui cherchaient à faire un développement en se réunissant. Et ils se réunissaient tous les 15 jours. Mais ça a duré 2 ans avant de pondre le projet. Mais c'est eux qui l'avaient pondu. Là, je peux tout de suite d'ailleurs donner un exemple que j'ai suivi, que vous pouvez regarder sur Internet. C'est le Cycling Lab. Vous faites sur Google Cycling Lab Bourdoisan. Et là, vous aurez un site qui vous explique le détail de cette opération. Alors, je l'explique tout de suite en quelques mots parce que ça va me servir d'illustration à cette phase de ce que j'appelle le colloque des acteurs, où tous les acteurs doivent se réunir. L'Alpe d'Huez, c'est un massif, le massif de Loisans, au sommet duquel il y a une station de ski qui s'appelle l'Alpe d'Huez, près de Grenoble, et en bas, c'est Bourdoisan, capitale de la communauté de communes. Et donc, avec les problèmes de baisse de la neige, problèmes de difficulté des stations de ski qui sont bien connues en milieu montagnard, au lieu d'essayer de tenir le coup, un coup de canon à neige. Bon, je m'excuse, j'ai pris froid en Alsace. Hein. Bon. Et donc, ils ont décidé d'essayer de réfléchir. Ils ont réuni tout le monde. Quand je dis tout le monde, ce n'est pas seulement les entrepreneurs potentiels et les collectivités territoriales, c'est tout le monde, les associations, associations patrimoniales, associations culturelles même, toutes sortes de gens. Parce que tout le monde a quelque chose à dire, potentiellement. Des fois, ils ne disent rien, mais bon. Et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et ils ont cogité en se réunissant régulièrement. Et au bout d'un moment, c'est d'ailleurs une personne extérieure, un consultant extérieur, qui leur a mis la puce à l'oreille. Il leur a dit, mais vous savez que vous avez un pont d'or et vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas saisi la chance que vous avez. Il y a à l'Alpe d'Huez, la montée à l'Alpe d'Huez, qui est une des étapes principales du Tour de France. 22 virages. C'est connu du monde entier. C'est... Moi, j'ai le père de la copine de mon fils, c'est un Colombien. Il me dit, mais moi, je connais l'Alpe d'Huez. À côté de Bogota, il y a plusieurs bistrots qui s'appellent l'Alpe d'Huez, dans la montagne. Et c'est un passionné, parce que vous savez qu'en plus, les Colombiens, il y en a qui ont gagné le Tour de France. Et ils connaissent par cœur toutes les étapes. Ils suivent ça à la télé. Donc, vous avez un public mondial. C'est la troisième manifestation, et les gens ne s'étaient pas rendus compte, mondiale, sportive, télévisée, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. Et vous avez environ 850 millions de personnes à travers le monde qui regardent le paysage de l'Alpe d'Huez. Et ça, c'est gratuit, la pub. Vous ne trouverez absolument pas d'équivalent, ou alors ça voudra payer une fortune en matière de marketing local, quoi. Et donc, foncez là-dedans. Pourquoi ? Ben parce que vous ne serez pas la énième région qui veut valoriser le cyclisme. Mais vous avez des atouts que les autres n'ont pas. Et là, on arrive à la spécificité de la ressource. Alors, on a beaucoup parlé, là, tout à l'heure, des acteurs qui doivent se réunir. Je pense que c'est autour de la ressource que ça se noue. C'est-à-dire que la ressource devient territoriale, puisque c'est une ressource spécifique du lieu qui n'est pas dans un autre lieu. Alors, à partir de là, on va avoir toute une réflexion qui aboutit, là, ça fait plusieurs années qu'ils sont en travail là-dessus, qui aboutit à une construction où il y a de la... Il n'y a pas des usines pour faire des vélos parce qu'en Asie du Sud-Est, il y a des usines qui font ça 10 fois moins cher. Donc, ce n'est pas la peine de se battre sur des concurrents. Hein, confère proverbe chinois de tout à l'heure. Donc, ils font plutôt des vélos électriques. Et autour de ça, il y a tout un accompagnement, un bouquet de produits différents autour du cyclisme. Et pour eux, ils ne vendent pas des vélos, mais ils vendent l'art de vivre à vélo, avec du tourisme, de la culture, également des gammes de vêtements pour les cyclistes, tout un environnement pour les cyclistes, etc. Et ça, c'est un exemple assez extraordinaire de développement territorial à partir d'une idée sur ce que l'on a que les autres ou n'ont pas ou moins bien que nous, et où on peut valoriser. En fait, la ressource ultime, c'est la pente de route. Parce que s'il n'y avait pas de pente, il n'y aurait pas de ressource, celle-là. Mais c'est pour le découvrir, il a fallu qu'ils se réunissent et qu'ils prennent le temps. Parce que le problème, c'est que dans mon exemple classique, le consultant, il a 6 mois pour faire son programme, puis après, on arrête de penser, on applique le programme. Et là, on n'arrête pas de penser, on continue à progresser. Et donc, ça veut dire que d'ailleurs, la première étape très importante, c'est la rencontre des acteurs, donc ce que j'appelais le colloque des acteurs. Puis une fois qu'on a découvert un peu ce que pouvait être la ressource, on peut avoir des projets qui peuvent différer. Alors, la ressource, quelle est la nature de la ressource territoriale ? C'est une ressource qui est premièrement invisible immédiatement. Il faut la chercher, elle ne se découvre pas tout de suite. C'est un potentiel. Parce que vous avez des endroits où la route est en pente, c'est pas forcément une ressource. Si ça ne donne pas lieu à une spécificité quelque part. Dès qu'il y a de la montagne, il ne suffit pas que ça monte ou que ça descende, il faut qu'il y ait du sens derrière. Et en particulier qu'il y ait ces références, que ce soit le Tour de France ou autre. Vous savez aussi qu'il y a des gens qui mettent leur vélo qui vaut très cher, qui viennent d'Australie ou des États-Unis, qui mettent ça dans l'avion et qui viennent à l'Alpe d'Huez uniquement pour monter l'école et avoir un beau diplôme. Moi, je trouve ça un peu ridicule, mais enfin bon, c'est un avis ultra personnel. Mais un beau diplôme, et ils reviennent tout contents. Et ça participe de la notoriété de cette région, de ce coin-là. Donc c'est quelque chose qui est non seulement invisible et potentiel, mais qu'il faut découvrir, mais c'est aussi lié au lieu. Et c'est très important de voir, parce que pour se différencier, la référence au lieu permet de parler de territoire et de territorial. Sinon, trouver un autre mot, parler de région, parler d'espace politico-administratif, parler de département, mais pas de territoire. Donc, ça nous amène à cette idée ultime que le territoire est un élément de la performance. Et la performance des territoires, ça a été longtemps ce qui permet de créer une rente de situation, une rente de qualité immédiate. Alors, cette idée de la rente, c'est important aussi parce que je regarde ma montre. Il me reste combien là, de temps là ?
Un quart d'heure
avant les questions. Ok, d'accord. Je vais y arriver. Et donc, du coup, je vais me remettre sur ce que je voulais dire. Le modèle donc économique que l'on peut faire de la performance. Pendant longtemps, c'était une performance qui était celle des entreprises. Il y a eu des économistes imprudents, mais il y en a beaucoup, qui ont dit c'est facile, la performance du territoire est égale à la performance des entreprises qui sont sur le territoire. Ce qui est, je vous le dis tout de suite, complètement idiot. Parce qu'il y a des entreprises qui viennent, mais avec leur main-d'œuvre, et qui repartent avec leur main-d'œuvre, donc qui font absolument rien au territoire. Et c'est pas il y a un autre type de performance qui nous amène, si vous voulez, à un deuxième temps, qui est un temps où les territoires, il n'y a pas que la performance de type productivité, si vous voulez, il y a le bien-vivre. Les latino-américains appellent ça le buen vivir. Alors, c'est très important parce que c'est apparu avec le changement climatique, notamment, et avec de nouveaux vocabulaires, en disant l'objectif du développement économique n'est pas uniquement le profit, parce que le profit peut être destructeur. Avec le réchauffement climatique, on voit que la productivité peut être destructrice. Et que donc, plus on est productif, plus on détruit la Terre. Et là, ça devient insupportable. Bien sûr, il y a des possibilités de repousser ou même d'être dans le déni. C'est ce qu'on vit en ce moment. Je ne citerai pas de nom. Un président des États-Unis, par exemple, participe bien à ça. Et cette idée-là, elle est, comment dirais-je, est importante dans la mesure où on arrive à une limite qui va forcément obliger de trouver des solutions, mais que ce sont des solutions qui ne sont pas alternatives. C'est-à-dire, ce ne sont pas des solutions où on va faire la révolution. On va dire le capitalisme va disparaître et on va faire autre chose à la place. C'est la notion de... J'ai appelé ça subversion, je ne sais pas si ça apparaît là. Là, j'ai fait la pub pour un bouquin qui sort le mois prochain. Et le titre, comme vous voyez, c'est l'approche subversive du développement. Donc, le modèle du développement local cohabite parfaitement avec le modèle de productivité. C'est-à-dire au modèle capitaliste, pour faire simple. Mais il peut le subvertir dans le bon sens. C'est ça qu'on peut faire. C'est-à-dire des exemples où on trouve des productions, des performances, mais des performances qui sont respectueuses de l'environnement, qui permettent d'éviter la destruction de la dette vis-à-vis de la Terre, etc. Et ça veut dire aussi qu'on voit apparaître des nouveaux vocabulaires. L'habitabilité, c'est un nouveau concept, chez les géographes en tout cas. Il faut qu'une ville soit non seulement réponde aux habitants, donc réponde aux nuisances éventuelles, mais il faut qu'elle finisse par être habitable. Et qu'il y a des villes qui tendent à devenir inhabitables. Ce qui est le plus évident, c'est aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, l'impératif de rafraîchir les villes. Maintenant, dans les collectivités territoriales, je ne sais pas, monsieur le maire, si vous avez cette préoccupation, mais il y a beaucoup de communes, surtout les grandes, évidemment, il faut impérativement revégétaliser les villes et les rafraîchir, parce que ça va devenir inhabitable. Donc, arriver à se trouver dans des territoires performants économiquement, mais inhabitables, c'est quand même un sacré paradoxe. Mais c'est le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est une situation qui génère de la crise. Ce n'est pas une situation qui, tant bien que mal, essaye de gérer la crise, c'est une situation qui génère de la crise. Donc on va avoir des changements importants. Mais plus ils sont retardés, plus ils seront brutaux. Donc là, il y a un nouveau créneau, si j'ose dire, de la développement territorial, qui est de proposer une subversion du système qui permette de trouver au maximum des solutions, mais à partir de l'initiative citoyenne. On est dans une perspective de où les, comment dirais-je, l'économie est complètement bouleversée dans ses objectifs. Alors, je voudrais vous dire en particulier qu'il y a eu des alertes. Bon, il y a bien sûr les alertes connues qui sont le rapport de Meadows de 1972 qui s'appelle Halte à la croissance, était déjà la croissance contre le bien-être. C'était déjà une première, mais il y a mieux encore. J'ai découvert ça par hasard parce que je n'ai pas tout lu l'œuvre de John Maynard Keynes. Mais John Maynard Keynes, en 1930, a écrit un petit bouquin, Lettre, oh, ça fait 40 pages, Lettre à nos petits-enfants. Alors, je vous conseille vraiment de lire ce bouquin, c'est édité il n'y a pas longtemps, Lettre à nos petits-enfants, où il dit, grosso modo, dans 100 ans, ça fait 2030, on n'est pas loin là, il est probable qu'on ne sera plus dans un projet de productivité absolue, parce qu'on aura atteint finalement suffisamment de croissance pour qu'on n'ait plus qu'un problème de répartition de la croissance par rapport à la pauvreté, etc. Et que donc, on va pouvoir avoir une vision différente. Donc, c'était déjà une façon de dire la croissance telle qu'on la voyait à l'époque, surtout que 1930, c'est juste après la grande crise de 1929. C'était assez optimiste. Mais aujourd'hui, ça se réalise. Et alors, bien sûr, il y a tout un débat dans lequel je ne rentre pas sur la décroissance. Ce n'est pas forcément mon problème, ce n'est pas forcément la décroissance. Mais la décroissance, c'est la croissance qui change de sens. C'est-à-dire qui va dans le sens du mieux-être des individus et non pas dans le sens de la performance. Mais cette révélation de Keynes était assez géniale, en fait, de dire, un siècle à l'avance, on a la course à la performance n'aura plus de sens au bout d'un moment. Ben, voilà dans le cadre dans lequel on se situe, il y a une nouvelle légitimité du développement territorial qui dépasse les projets ponctuels, mais c'est dans l'addition des projets ponctuels où on mute vers de nouvelles préoccupations. Et je pense que c'est là où on a peut-être pendant longtemps dit oui, le développement, ça peut être une solution, mais c'est pas suffisant, etc. Là, on a une vraie légitimité à avoir un élargissement de ce développement territorial. Alors, ça constitue, à mon avis, un tournant, je ne dirais pas définitif, parce que, vous savez, il faut se méfier des tournants définitifs, où on a dit le capitalisme est mort. Et ben, y a, tous les gens qui l'ont dit sont morts eux-mêmes, déjà. Et finalement, ils continuent. Donc, dire que c'est la fin du capitalisme, c'est un peu... Je ne me risquerai pas. Mais par contre, pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Oui, disons, c'est incertain. C'est incertain parce qu'il y a ce que Marx appelait les contre-tendances qui se mettent en place et qui font que... Voilà. Donc, ben, je terminerai essentiellement là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de challenge du développement territorial devant nous et qui passe par la multiplication des projets. Donc ce que vous allez faire, que ce soit un petit groupe de gens qui, à travers dans le monde associatif, essaye de trouver des solutions au mal logement, par exemple, ou bien l'installation d'un vaste mouvement de réindustrialisation dans les campagnes, quelle que soit la dimension, c'est du développement territorial qui se cumule pour subvertir le système. Ben, voilà, je vais m'arrêter là.
Oui, merci Bernard d'avoir rappelé ces éléments et comment tu penses en ce moment le développement territorial. Moi, je voudrais juste brièvement rappeler quand même que les notions que développe Bernard ici, sur lesquelles on travaille, c'est des notions qui datent dès les années 80. C'est-à-dire, il y a un vrai cheminement intellectuel, mais ça, vous devez le savoir, mais vous n'êtes pas forcément à suivre tous ces travaux. Pour moi, si vous voulez, c'est à la fois la naissance de l'écologie politique avec André Gorz, écologie et liberté, écologie et politique, d'un côté, et à ce moment-là, Bernard fait paraître, dans les années 70, aux éditions Siroche, je m'en souviendrai toujours, jeune chercheur, une édition avec une couverture noire, le développement local. Donc j'étais resté sur cette idée que c'était une réponse adéquate dans un esprit déjà de réinventer en quelque sorte l'économie et la société. Mais derrière cette idée de développement local, donc au tournant des années 2000, c'est là que Bernard, avec Claude Courlet et d'autres auteurs, ont développé cette idée de développement territorial. Pourquoi ? Parce que ça permettait de sortir du développement local, donc du localisme. On croyait toujours qu'on peut tout faire tout seul dans notre coin et que c'est ça qui sera la solution. Ben non, on est dans un monde mondialisé et donc il faut repenser ou repositionner les territoires. Donc cette première étape du développement territorial. Et ma question était, mais tu y as partiellement répondu, qu'avec aujourd'hui la fragmentation de la mondialisation, la montée en puissance des rapports de force auxquels on assiste, il faut peut-être revoir et repenser le développement territorial, comme tu viens de le faire, de le repositionner en quelque sorte. Et en repositionnant ce développement territorial, on arrive à cette idée d'écosystèmes territoriaux, et qui permet de prendre en compte non seulement aujourd'hui la gravité et cette fragmentation de la mondialisation, mais aussi de la menace de la crise climatique qui est présente. Dans écosystèmes territoriaux, il y a bien cette dimension écologique qui revient, celle qui était chère à André Gorz, dont je parlais tout à l'heure. Peut-être que là, on a une piste intéressante autour de cette notion, d'ailleurs c'est revenu ici, et c'est l'objet aussi de ce forum aujourd'hui, de ce qu'on peut penser derrière les écosystèmes les écosystèmes territoriaux. Et ça me permet d'insister aussi, parce que souvent on est sur une position, alors pour vous c'est moins important que pour nous, j'allais dire universitaires ou chercheurs, c'est effectivement qu'est-ce que c'est que le développement territorial, quoi, par rapport aux grandes écoles de pensée de l'économie, on en a parlé. Et donc, on en discutait hier. En fin de compte, je disais, ce n'est pas l'économie géographique, cher à Paul Krugman, qui est encore dans le mainstream, qui est encore une vision top-down, mais c'est effectivement, je parle sous ton contrôle, mais c'est effectivement de sortir, d'aller plus vers l'idée d'un concept. Je lui dis, mais toi, tu te positionnes comment ? De géographie économique. Parce que l'avantage des géographes, c'est de connaître leur territoire. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'impressionnant. Par rapport aux économistes, bon, les sociologues aussi connaissent leur terrain, mais par rapport justement à l'économie, et donc tout ce que vient de nous rappeler Bernard, de cette manière d'appréhender les territoires, de révéler la ressource, etc. Et là, je crois qu'on a vraiment une piste importante sur la géographie économique. Et du coup, c'est cette logique de... Alors moi, je dis souvent dans mes cours, beaucoup d'étudiants que j'ai eus rappellent, c'est qu'aussi cette démarche qu'on en a dans le développement territorial, dans la géographie économique, c'est une démarche qui est vraiment ascendante, hein, c'est-à-dire bottom-up. Hein. On part toujours du terrain pour après essayer de construire les projets. Alors que la logique même du capitalisme, c'est constamment l'inverse. C'est une vision qui est complètement top-down, qui est toujours descendante. J'ai un projet, je le développe à tel endroit, un complexe touristique, une plateforme de logistique, etc., qui n'a rien à voir avec ce que veulent les acteurs sur le terrain. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, ce sont les peuples autochtones, certaines parties du monde, qui défendent le mieux les territoires parce qu'ils savent ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent en faire. Donc je pense que On a aujourd'hui cet enjeu, et je crois que tu l'as très bien défini, d'un développement territorial, comment il se positionne et comment cette logique de révélation des ressources ou de spécificité du territoire est déterminante pour nous repositionner et pour penser, l'avenir. Je dirais une dernière chose par rapport à ça aussi, dans cette longue lignée. Bernard, comme moi, on a été imprégné de ce qu'ont été les districts industriels italiens, marshalliens, dans les effets d'agglomération sur les territoires, et très vite ils ont dévié. C'était devenu le problème de l'attractivité, du développement technologique des territoires. Et en 2007, quand il a fait cette présentation sur le développement territorial, moi j'étais en train de réfléchir sur comment penser ce qu'on appelle des clusters, donc des agglomérations de ce type, propres au territoire et plus largement à l'économie sociale et solidaire. Et c'est à ce moment-là que le labo de l'ESS a mis en place les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, et qui montrent bien que c'est une autre réponse, mais tout en restant dans cette démarche d'école de pensée. Ça ne tombe pas comme ça. C'est les clusters, les districts italiens, par la suite les pôles dits de compétitivité ou technologique, et une nouvelle réponse dans le cadre de l'économie du développement territorial, ce sont précisément les PTCE. Donc c'était un peu une manière de reprendre des éléments et de vous montrer qu'il y a toute une continuité de réflexion que l'on a depuis maintenant bientôt 50 ans autour de ces questions. Il y a un tout petit truc, mais on le fera tout à l'heure. Tu n'as pas expliqué pourquoi les pays et les conseils de développement étaient torpillés, mais je pense que dans la table ronde et dans les ateliers, on pourra dire, parce que là, c'est le suspect, vous ne savez pas pourquoi. Vous avez dit ça a été torpillé, par qui et pourquoi.
Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être invitée à cette conversation. Donc, Bernard, tu nous as présenté vraiment les mots-clés qui ont marqué cette transformation. J'aimerais revenir un peu sur ce terme de ressources, d'une manière générale, et sur un vocabulaire dont tu nous as dit que c'est un vocabulaire qui relève d'un monde économique éthéré. Ok, mais néanmoins, il y a une ambiguïté quand on utilise ce vocabulaire, ressources, rente, capital, performance, pour désigner autre chose. Alors, je voudrais là-dessus, m'interroger parce que, il y a tout ce volet hérité d'une économie qui habite nos cadres de raisonnement et qui sont entrés dans le vocabulaire courant, et qui donc mérite d'être profondément retravaillé, si tant est qu'il faut les utiliser ou alors changer de vocabulaire. En tout cas, ne pas utiliser ce vocabulaire afin de saisir des choses qui sont beaucoup plus sensibles, des choses qui relèvent du lien social, des émotions, des attachements, du vécu. C'est quelque chose qui mérite sans doute qu'on marque un changement d'orientation, qu'on prenne aussi, et tu l'as évoqué, des orientations qui donnent toute leur place aux liens sociaux, aux solidarités, à l'entraide, à la confiance sur les territoires. Ceci serait d'autant plus important que le terme de ressources, il me semble, on en abuse. On en abuse aussi en particulier parce que ça nous laisse penser que ces ressources, elles sont disponibles. La question de la disponibilité est fondamentale. Il y a tout d'abord l'invisibilité de la ressource, on l'a bien compris et c'est important de le rappeler. Cette invisibilité, en fait, elle est levée par la venue de l'étranger, la venue d'une autre personne, d'un tiers, qui nous fait ouvrir un regard nouveau. Ça, c'est extrêmement important. Et il en est de même de la perception de la disponibilité des ressources. Il me semble qu'il y a des ressources qui mériteraient d'être peut-être protégées, devenir indisponibles. Il me semble aussi qu'on raisonne encore en termes de ressources qui signifient donc il n'y a qu'à puiser ou savoir puiser la ressource. Oui, il faut savoir se la réapproprier autrement, mais n'y a-t-il pas là aussi des problèmes de limite ? limite de la ressource eau, la ressource qualité de l'air, la ressource lien social, la ressource des personnes, la ressource, les ressources de la nature. Est-ce tenable dans un monde aux ressources limitées et dont le territoire marque bien, disons, une certaine frontière à ne pas dépasser si on entend aller vers la convivialité, aller vers un modèle différent. Donc, quelles sont justement les logiques sous-jacentes à nos raisonnements ? Faut-il pas plus de critique de ce vocabulaire ? C'est une question qui me paraîtrait importante de discuter. Je vais être plus courte pour une deuxième question. La deuxième question, eh bien, ça concerne plus particulièrement dans le développement territorial, eh bien, le fait qu'il faut reterritorialiser, notamment, c'est un terme que je crois il est utilisé dans l'ouvrage dont tu nous as parlé, c'est poser la question du changement de regard. Donc, le changement de regard sur le territoire, je viens d'en parler à travers la ressource, mais c'est aussi la relation aux autres et puis de la manière de pouvoir vivre, habiter avec quels acteurs concernés. Ce serait une question plus précise peut-être, on a cité quelques-uns. Il y a de nombreux acteurs qui sont invisibles ou alors qui sont délaissés ou alors qui sont dans l'isolement aussi hein, et dans la précarité. Donc ici, ça me paraît là important aussi de revenir sur coopérer avec qui, comment, quel est le déclic, cette coopération. Il me semble qu'il faut aussi travailler à une culture de la confiance, de la réciprocité, pour pouvoir dynamiser nos relations, les inscrire dans une signification et leur donner une orientation qui est pour le bien commun. Enfin, je pense que dans ce petit commentaire, je m'arrêterai sur l'idée que eh bien, cette coopération hein, qui renvoie, c'est le terme qu'on nous invite aussi ici à travailler et à creuser davantage, eh bien, va au-delà de la collaboration. La collaboration, elle est limitée dans le temps. La coopération s'inscrit dans la durée et le temps long. Et en tout cas, j'ai envie de dire qu'elle donne du sens et l'humanité, en fait, est coopérative profondément. Et renouer avec les liens sociaux, ça me paraît extrêmement important pour pouvoir répondre finalement à ce que Morin a appelé des oasis de fraternité.
Et dans ce que tu viens de citer, en fait, c'est Éloi Laurent qui a fait, tu vois, au-delà de la collaboration, pour une économie de la coopération.
On a encore 5 minutes à peu près avant de pouvoir faire une pause, si ça vous va.
Vous me dites de...
5 minutes à peu près.
Oh oui, mais moins que ça. Non, c'est simplement pour... je ne vais pas redire ce que... je suis d'accord avec, notamment... Je suis d'accord avec l'ambiguïté des mots utilisés. Moi, je rappelle, je suis un économiste de formation. Bêtement, un économiste. Personne n'est parfait. Et donc, j'utilise ces mots-là, parce que c'est ces mots-là qui me viennent en tête de mes études, etc. Mais je suis parfaitement d'accord, mais je ne suis pas forcément le mieux placé pour faire ce travail... de reprendre cette notion de ressources, qui n'est pas une notion économique, d'ailleurs, du tout, et qui, mais avec peut-être d'autres mots, changer le vocabulaire, mais par exemple, le mot territoire, on est empêtré avec ce mot-là. Un jour, peut-être, on changera de mot. Mais on a besoin de faire de la sémantique un peu pour faire évoluer les outils conceptuels que l'on a. Donc sur cette critique-là, je pense qu'il y a vraiment un champ possible de travail, quoi. Sur ce que tu as dit, toi, par contre, Francis, là, les écosystèmes, c'est vrai que je n'ai pas parlé d'écosystèmes territoriaux. Pourtant, ils sont complètement dans ma tête, hein, puisque au fond, les écosystèmes, c'est... Ça vient de la littérature, notamment anglo-saxonne, sur les food systems. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu ça. C'est-à-dire qu'on a vu arriver tout d'un coup sur l'alimentation comme un des besoins fondamentaux des citoyens, des systèmes alimentaires qui sont différents d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, etc. Et que ça fonctionne vraiment en mode système. Et je suis en train d'élaborer un peu une construction qui aura besoin d'être consolidée, mais je vous livre tout de suite la réflexion sur ce que j'appelle le modèle des trois sphères. C'est-à-dire que dans un territoire, il y a trois sphères dans le comportement des individus. Il y a la sphère du travail, avec des lieux d'application, c'est le bureau, l'atelier. Il y a la sphère de la socialisation, c'est les clubs de boulistes, les bistrots, même certains magasins, certaines épiceries de village qui ont d'autres fonctions, etc. Donc la socialisation. Et autrefois, il y avait les églises, peut-être moins, ça fonctionne peut-être moins aujourd'hui. Et le troisième, c'est l'intimité, c'est-à-dire la maison. Le troisième type de lieu, c'est l'intimité. Alors, dans le modèle fordiste des années 70, ces trois fonctions étaient complètement distinctes les unes des autres, éloignées les unes des autres. Soit on était au boulot, soit on était au bistrot, soit on était chez soi. Et puis les formes d'évolution du système économique aujourd'hui font que, par exemple, avec le télétravail, eh bien, la sphère de la production s'invite dans l'intimité des gens, avec des problèmes. C'est-à-dire que celui qui a un petit appartement et des enfants, il sait que son boulot, il s'arrête à 4h30 quand les enfants rentrent de l'école. Donc, il y a des intrusions, en fait, entre les différentes sphères. Il y a également la baisse des lieux, voire la suppression massive des lieux de socialisation, en particulier dans les villes. Mais aussi à la campagne, où il faut recréer des espaces de socialisation, épiceries solidaires, des petits libraires... etc. Donc, on voit qu'il y a une confusion de ces sphères-là et que jusqu'à présent, c'est vrai que c'était la production qui primait. Et que pour essayer de voir le développement dans une région, s'intéresser surtout à cette sphère productive. Il faut des emplois. L'obsession de l'emploi, dans les années 90-2000, c'était terrible. C'est l'emploi d'abord, on réfléchit après. Ça a donné des résultats extrêmement médiocres, d'ailleurs. Quand on fait le bilan de l'action des collectivités pour créer des emplois, c'est plutôt, on s'est bien piqué mutuellement les emplois, mais par contre, le résultat net est extrêmement faible. Donc là, il y a une marge de manœuvre à faire rentrer dans la danse les trois sphères qui ont à chaque fois des prolongements et qui ont des relations mutuelles. Et que le problème du développement devient l'équilibre, la recherche d'équilibre entre les trois sphères. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des endroits où il y ait des gens puissent être tranquilles chez eux, les gens puissent avoir aussi quand même monté en relation, intensifié les relations. Et c'est là où le rôle des collectivités bouge et devient plus important en matière. C'est plus important au lieu d'essayer d'aider la sphère productive. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire, hein, mais pas d'obsession là-dessus. Et beaucoup plus d'équilibre entre les trois. Qui définit le besoin des citoyens ? Sinon eux-mêmes. Or, il y a beaucoup de situations où ce sont d'autres qui décident du besoin des citoyens. Et s'il n'y a pas la prise de parole par les citoyens, hein, au sens de Hirschman, la voice, quoi. S'il n'y a pas cette prise de parole, eh bien, le besoin s'exprime mal. Les grands projets d'aménagement du territoire, mais par exemple, vous prenez des besoins conflictuels, les bassines. Alors, les bassines, c'est typique. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ont vraiment besoin des bassines. Mais on est à la barbe de tous ceux qui aimeraient bien en profiter, mais qui sont sortis extérieurs à ça. Donc, la question cruciale, c'est de savoir qui définit les besoins de chacun, sinon eux-mêmes. Alors, c'est un peu compliqué, parce que si on fallait demander à tous les citoyens de dire ce qu'ils veulent, et comment on fait pour hiérarchiser tout ça, bon. Alors, la question du renoncement, ben, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a aussi qui décide qu'on n'a plus besoin de ça. Sinon, les utilisateurs directs. Mais il y a des utilisateurs directs qui utilisent abusivement des choses dont on n'a plus besoin ou qui coûtent cher à la société, qui ne servent plus à rien. Donc, c'est une question de dialogue démocratique à revoir. J'ai pas de réponse beaucoup plus précise que ça. Mais enfin, ça fait déjà un paquet de réflexions.
Je trouve que c'est intéressant de s'arrêter sur le dialogue démocratique. C'est une belle façon d'aller en discuter autour d'un café. Merci Fanny pour cette suggestion formidable. Merci beaucoup à tous les trois.